Live interview, Julie Chaise-Martin. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Camille de Foresta. Bonjour Camille.
Bonjour Julie, merci beaucoup de me recevoir.
Alors on va parler aujourd'hui d'une vente aux enchères, puisque vous êtes Camille commissaire-priseur, également spécialiste du département Art d'Asie chez Christie's depuis 2016. Donc vous officiez vraiment dans ce département spécialisé et le 15 novembre prochain a lieu une vente que vous allez orchestrer, une vente consacrée au japonisme. Alors il faut dire que cette année, la France célèbre les relations diplomatiques franco-japonaises. C'est le 160e anniversaire de ces relations. Donc c'est un événement chez Christie's qui s'inscrit aussi dans cette vague d'événements qu'on voit un peu partout au niveau des expositions ou des événements culturels en France cet automne.
Oui, et c'est une première pour nous, peut-être pas une vraie première, mais en tout cas assez rare, si vous voulez, de sortir de notre calendrier habituel pour coller à l'actualité. Là, ça nous semblait essentiel de faire quelque chose, étant donné, vous l'avez dit, le nombre de manifestations culturelles. En fait, le programme s'appelle « Japonisme » avec un S, « Les âmes en résonance ». Voilà, c'est un joli titre pour une très belle période qui nous propose de l'art vivant, mais aussi des expositions. Et en particulier, je vous conseille, je ne l'ai pas encore vu, mais il y a cette grande exposition « Japonisme » avec un S aussi, qui va commencer au Musée des Arts Déco, au MAD. Ouais. Nouvelle identité, le 15 novembre justement. En fait, ils inaugurent la veille de notre vente.
Ouais.
Et on a fait exprès de coller au plus près du calendrier. Et je suis très contente parce que nous avons même des objets en commun. Alors voilà.
Voilà, donc c'est vraiment effectivement esprit du japonisme, je crois, au Musée des Arts Déco. Enfin, c'est effectivement le même jour en plus que votre vente. Alors la vente chez Christie's, c'est le 15 novembre à 14h30. Voilà, donc il faut y être. Et puis il y aura aussi les objets qu'on peut voir un peu comme à chaque fois en amont lors d'expositions chez Christie's à partir du samedi 10 novembre d'ailleurs. Alors on va parler un peu plus en détail de cette vente. C'est 75 lots, je crois.
75 lots, oui. Et en fait, ne faisons pas d'amalgame. En fait, japonisme, ça sort de ma spécialité habituelle. C'est vraiment les objets occidentaux, en particulier français dans cette vente, mais un peu anglais et américain d'ailleurs, qui sont influencés par l'art du Japon. Et nous avons décidé de mixer ces objets avec des objets japonais en essayant, autant que faire se peut, de montrer de façon très visible les influences et les correspondances et les dialogues entre les œuvres. Donc 75 lots, à peu près, je dirais, 70% occidentaux, 30% japonais, pardon.
Alors, si on parle un peu de datation, c'est des lots qui se situent entre à peu près 1860 et 1930. Et ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, à travers les objets un peu emblématiques que vous présentez à cette vente, on voit l'influence sur différents domaines des arts du japonisme, donc à la fin du 19e siècle, sur les arts occidentaux, que ce soit la peinture, les arts décoratifs, les bijoux même. Et notamment, il y a un courant qui s'appelle l'art nouveau, qui s'est beaucoup inspiré du Japon.
En vrai, le japonisme à proprement parler, c'est Philippe Burti qui donne ce nom après la première exposition universelle parisienne où le Japon participe à un pavillon, c'est en 67, et officiellement, ce courant se termine juste avant la Première Guerre. Mais nous avons décidé de balayer un tout petit peu plus large pour pouvoir inclure quelques objets de l'époque Art déco parce que bon, on les aime beaucoup et il y a quand même encore des correspondances qui sortent de cette appellation académique de japonisme, mais qui sont encore des influences très visibles. Alors, vous parlez de l'art nouveau, et effectivement...
Parce qu'il y a l'art nouveau, qui est donc plutôt art 1900, voilà, et l'art déco, dont vous venez de parler, un petit peu plus tard, après-guerre, vers 1930.
C'est ça, 1920, 1930.
L'entre-deux-guerres, en fait.
Oui. Et notre lot, disons, comme on dit dans notre jargon, notre top lot, c'est une commode, justement, d'Émile Gallet, qui est donc un des pères de l'art nouveau, un des artistes les plus importants, les plus emblématiques. Et cette commode est effectivement, je crois, très visiblement japonisme, par notamment sa marqueterie, son décor et les techniques aussi employées. Parce que l'influence du Japon, c'est évidemment stylistique, mais c'est aussi d'un point de vue de technique, c'est-à-dire que quand ces objets japonais arrivent pour la première fois en France dans les années 1860, nous avons des artisans qui sont très impressionnés par la technique, par exemple, du bronze, du laque, que nous ne maîtrisons pas de la même façon ici en Europe.
Donc c'est des techniques nouvelles, d'ailleurs la couverture du catalogue présente une belle marqueterie, justement un détail d'une belle marqueterie inspirée du Japon. Les lots, si on revient aux lots, c'est quoi à peu près les prix? Est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, de prix un peu de départ?
Alors là, étant donné que c'est une vente thématique et une première et a priori une vente unique, un one shot comme on dit, nous avons ouvert, disons, en général, Christie's a un seuil de valeur minimum. Mais là, nous avons ouvert les seuils de façon à privilégier, disons, l'impact esthétique des objets plutôt que leur valeur. Enfin, pas l'un contre l'autre, mais on a commencé à 2 000-3 000 euros avec une boucle de ceinture dessinée par Boutet de Montvel, que nous avons d'ailleurs en commun avec l'exposition du MAD. Une très belle boucle de ceinture qui est en argent et avec un rubis à la place de l'œil en forme de grue qui ressemble énormément à un tsuba, donc les gardes de sabre japonaises. Ça, c'est le lot le plus accessible de notre vente. Mm-hmm. Et ensuite, pour cette commode dont je vous parlais, c'est 200 à 300 000 euros. Voilà, spectre très large,
alors,
pour une fois.
Justement, on voit que les objets sont très divers et donc ont rapport à différents courants et donc ont des valeurs aussi assez diverses également. Comment on fait pour choisir des objets pour réaliser une vente? Est-ce que en amont, en fait, vous aviez l'idée de faire une vente sur le thème du japonisme à cause de l'anniversaire, donc on a dit les 160 ans de relations franco-japonaises, ou bien c'est une vente qui s'est faite un peu comme ça, petit à petit, enfin, la construction, la genèse, en fait.
Alors, la genèse de cette vente, c'est un peu un coup de folie, je vais dire, où je me suis dit que c'était vraiment très très important, je pense, de montrer que Christie's peut être vraiment très ancré dans l'actualité culturelle en France. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur et ça, c'est vraiment personnel. Ce sont des objets que j'aime depuis toujours, que je suis avec attention. Et donc, quand j'ai eu l'autorisation du management de se lancer dans un projet pareil, c'est le moment où nous avons commencé à glaner les objets, à collecter les objets. Donc, de la même façon que nous faisons pour les autres ventes, c'est-à-dire en approchant différents collectionneurs dont nous savons qu'ils ont des verreries de galets, des bronzes de Barbe Dienne, des estampes d'Henri Rivière, et en leur soumettant le projet, en espérant qu'ils puissent les séduire. Et puis après, il y a aussi les petits coups de pouce du destin où vous vous dites « Ah ben, j'ai vraiment bien fait d'organiser cette vente » parce que juste à ce moment-là, complètement par hasard, vous avez un client qui vous propose un rançon ou une théière de Christophe qui faisait justement vraiment partie des objets dont j'avais rêvé pour cette vente. Parce qu'évidemment, j'avais une vente rêvée. Une vente rêvée qui nous a permis...
On a toujours une vente rêvée.
C'est vrai. Et il y a évidemment des trous. Hein. Il y a eu de très bonnes surprises dans cette recherche d'objets. Il y a aussi des trous, évidemment, des artistes qui ne sont pas représentés et qui auraient tellement leur place. Mais moi, je suis quand même déjà contente du résultat. Et voilà, cette théière, par exemple, c'est une théière qui est au musée d'Orsay, sa sœur, son pendant. Mm-hmm. Et voilà, ça faisait complètement partie des objets que je voulais. Et voilà, un jour, un client arrive et nous la présente. Donc ça vous aide à vous conforter dans la justification du projet, quoi.
Alors, vous parliez de cette théière au musée d'Orsay. Effectivement, on peut peut-être s'imaginer que certains musées vont être là pour préempter certains lots, si possible.
J'espère en particulier pour un lot, effectivement, qui, je crois, pourrait y avoir sa place parce que sa rareté, sa qualité, vraiment le justifie amplement. C'est cette commode dont je vous parlais avant.
Donc la fameuse commode,
de galets, parce qu'en fait elle est considérée par les amateurs de galets comme le testament artistique de l'artiste, dans la mesure où c'est sa dernière commande honorée. C'est l'histoire d'un de ses mécènes fameux, qu'on connaît bien, qui s'appelle Henri Hirsch, et qui, à l'occasion de son mariage, commande au maître une chambre à coucher pour sa nouvelle épouse, pour son épouse. Et il a des idées de modèle, parce qu'il suit le travail de Galet depuis longtemps. Mais là, il demande à Galet encore plus de richesse, encore plus de technicité, et une marqueterie tout à fait inédite avec ses incrustations de nacre. 4 meubles, l'un aujourd'hui au musée de Nancy, un autre au musée d'Orsay, et le troisième perdu, Enfin, en tout cas, pas localisé pour le moment. Et le quatrième, ici, dans ce catalogue. Donc, je ne sais pas du tout si un musée va s'intéresser, mais en tout cas, la parentèle montre que c'est possible.
Alors, un autre lot, on peut peut-être dire un petit mot sur le lot qui est présenté un peu comme le plus prestigieux de la vente. Vous aviez parlé tout à l'heure de Ferdinand Barbedienne. Alors, un petit mot peut-être sur lui et sur ce lot qui le concerne. Il s'agit d'une paire de vases en émail et bronze doré.
Oui, alors évidemment, Ferdinand Barbedienne, il a sa place presque plus qu'aucun autre dans cette vente. Pas essentiellement Ferdinand Barbedienne, mais les gens qui ont dessiné également pour lui. Alors, je vais citer par exemple Édouard Lièvre et Émile Reybert, qui sont des ornemanistes, dessinateurs, ensembliers, qui en fait visitent la collection d'Henri Cernuschi quand il rentre du Japon. Et il la montre dans l'hôtel particulier que vous connaissez déjà à l'époque. Et vous avez tous ces jeunes artistes qui sont émerveillés de ce qu'ils voient, de ces nouveaux modèles, de cette liberté, de cette ingéniosité, originalité, modernité. Et dessinent tous les modèles et ensuite les soumettent à certaines grandes maisons du type Barbedienne ou Christophle. Ou l'escalier de cristal ou autre. Et donc, effectivement, nous avons une paire de vases monumentaux. Hein, c'est 2 mètres de haut, encloisonnés, qui sont des cloisonnés chinois, parce que vous savez, la frontière est mince à cette époque. Deuxième moitié du 19e, chinoiserie, japonaiserie, japonisme. Bon, tout ça, ça peut ça, c'est un peu communiquer.
Des histoires d'experts.
En tout cas, là, les deux vases sont vraiment chinois, ça, il n'y a pas de doute. Ensuite, la monture est par Ferdinand Barbedienne, d'après un dessin d'Édouard Lièvre, extrêmement reconnaissable. Des dragons, évidemment, sinueux, le corps recouvert d'écailles qui montent le long du pied des vases. Et puis, le pied se termine en 3 têtes d'éléphants et reposant sur leur trompe, luxueusement harnachées, très beaux, très très connus comme modèle de Lièvre. Mais ça, c'est une vraie redécouverte. Ce sont des paires de vases qui étaient dans une famille française depuis 4 générations. Donc ça, c'est tout à fait le genre d'objet très excitant pour nous parce qu'inédit et perdu. Il y a aussi deux autres, depuis que nous nous sommes parlé, il y a deux autres œuvres de Barbedienne, dont une paire de torchères qui représente grandeur nature des japonaises. Voilà. Et ça, c'est un dessin de Guillemin, qui était un peintre et sculpteur orientaliste et qui avait vraiment le goût de représenter les Japonais ou l'exotisme. C'est-à-dire très belle paire de torchères aussi.
Il y a en fait deux choses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des vases d'origine chinoise qui sont du coup agrémentés par Barbedienne, par exemple, donc qui ont fait des objets à part entière. Mais il y a aussi à l'époque des artistes qui se mettent à la mode japonisante et qui font des sculptures ou des vases à la mode du Japon. Donc
oui,
ça, c'est un peu deux styles.
Absolument, il y a les deux. Oui, c'est vrai.
Alors, on va également parler de peinture, parce qu'il n'y a pas que les arts décoratifs.
Oui.
Il y a des très beaux lots avec des noms assez connus qui concernent donc les impressionnistes ou les nabis, en tout cas, qui se sont inspirés aussi de la mode du Japon. Paul Sérusier et Paul-Élie Ranson, par exemple. Alors ça, c'est un peu les deux stars de la peinture de la vente.
Oui, absolument. Alors, Paul-Élie Ranson, il était décrit lui-même par ses camarades, ses contemporains, comme le plus, à l'époque on disait ça, le plus japonard des japonards. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un peintre que moi, j'apprécie particulièrement. Et dans cette vente, nous avons 3 œuvres de Ranson. Nous en avons une qui est une étude à un tableau qui est aussi au musée d'Orsay d'ailleurs. Nous avons aussi une baigneuse qui est une huile sur toile, une baigneuse nue dans un paysage de forêt. Et nous avons un objet qui est extrêmement inédit et amusant. C'est une boîte à cigares que Ranson a dessinée et a fait fabriquer par Hérold. C'est un lot qui d'ailleurs a été promis en prêt à la prochaine exposition du musée du Luxembourg, exposition qui commence en mars 2019 sur les décors nabis. Voilà. Et ça, c'était un objet dont je ne connaissais pas l'existence. Pourtant, il est au catalogue raisonné, mais je ne l'avais pas en tête. Et ça, c'est tout à fait le genre d'objet très charmant, très inédit et en plus provenant directement de, l'atelier de l'artiste.
Voilà. Alors là, c'est par exemple le prix...
Mais pardon, j'ai encore une fois pas parlé de peinture.
Oui, alors voilà, on est revenu sur un objet, mais c'est pas grave, on va revenir aux peintures. En tout cas, c'est une belle boîte à cigares, marqueterie, avec encore une femme nue, hein, parce que je crois que Paul-Émile Ranson, c'était des modèles de femmes nues souvent. Et là, on est à...
Entre 15 à 25 000 euros, je crois qu'on a
15 à 25 000 euros, exactement.
Mais évidemment, donc pour la peinture, vous avez cette étude à l'aquarelle qui est en un travail préparatoire au musée d'Orsay. Et là, on a une estimation de 70 à 90 000, je crois. Et une baigneuse qui est à, je crois, 80-120. Oui, c'est ça. Et vous parliez de Sérusier tout à l'heure. On a un très beau tableau de Sérusier, une huile sur toile vraiment très charmante, qui représente une scène quotidienne de paysans bretons rentrant à la nuit tombée des champs au village. Et il y a une atmosphère très douce, très feutrée, qui, quand on a l'habitude et quand on est sensible à ça, rappelle absolument l'atmosphère qu'on trouve dans les estampes japonaises de Hokusai ou Hiroshige.
Oui, alors d'ailleurs, des estampes, il y en aura aussi un petit peu de ces grands noms, des estampes donc Hokusai, évidemment, le plus connu, Hiroshige et Utamaro.
Utamaro, nous avons aussi.
C'est un peu les trois, la triade.
Oui. C'était très important pour nous d'avoir des estampes de bonne qualité dans cette vente, parce que, je vous le redis, le japonisme, ça naît des estampes. Ça naît de ce commerce inédit qui commence dans les années 50-60 avec quelqu'un comme Siegfried Bing, rue de Provence, dans sa galerie, boutique d'objets japonais et d'estampes. C'est un lieu extrêmement important pour les artistes de l'époque. S'y retrouvent pas seulement les artistes peintres, s'y retrouvent Debussy, s'y retrouvent Van Gogh, s'y retrouvent les frères Goncourt. Et tout ça, ça va créer Philippe Burti, dont on parlait tout à l'heure, tout un foyer d'artistes qui sont influencés par cette nouvelle façon de voir le quotidien, en fait.
Oui, c'est toute une culture qui, voilà, en tout cas des cercles d'intellectuels, d'artistes, qui se regroupent autour de cette nouvelle mode. Dans la vente, il y a d'ailleurs l'encrier des frères Goncourt.
Oui, alors ça, c'est un objet auquel je tiens particulièrement, pas tant parce qu'il est valorisé de façon assez, assez attractive, mais parce que, voilà, il a appartenu aux frères Goncourt. Vous savez que l'un a survécu à l'autre, qu'il a continué. Qu'il a continué sa collection, qu'il a décrit dans la maison d'un artiste son ensemble et tous les objets d'Extrême-Orient qu'il y contenait. Et voilà, on trouve trace de cet encrier qui est en fait un plateau de faïence d'origine occidentale, qui a, bon voilà, on n'a pas à déceler l'origine, mais c'est de la faïence très, très commune. Et dessus, un petit daruma. Donc daruma, c'est un être très connu de la mythologie japonaise, dont la tête se dévisse. On mettait l'encre à l'intérieur. Et ensuite, sur ce plateau, vous avez aussi deux petits animaux en fer forgé qui permettaient aux frères Goncourt de reposer leurs plumes. Donc c'est un objet vivant, parce qu'on peut placer les objets comme on veut sur le plateau. Et très émouvant pour nous, en tout cas. C'est sûr.
Et alors, on continue un petit peu avec un dernier lot, un petit mot, aller sur... parce que bon, on ne va pas tous les citer, évidemment, ça va être la surprise aussi. Mais le dernier lot, je crois d'ailleurs, de la vente, le numéro 75, qui lui est en lien avec un intellectuel dandy de l'époque qui s'appelle Robert de Montesquieu. Et là, on a son exemplaire personnel, c'est un livre qui s'appelle « Les Hortensias bleues ». Donc il a écrit, donc c'est son exemplaire à lui que vous vendez.
Oui, c'est aussi, un très joli exemplaire, c'est difficile de vous le décrire comme ça, j'espère que vous viendrez voir l'exposition.
C'est le seul livre de la vente.
Il est... Il y a un album, il y a un autre livre, un autre livre de Rodin-Bas qui s'appelle Les Vierges. Mais oui, effectivement, ce livre de Montesquieu, ça fait partie de ces objets où vous vous confortez dans l'idée d'avoir fait une vente thématique, puisqu'il est apparu comme ça, au bon moment. Et il est truffé de dessins de l'artiste. Et Montesquieu faisait partie de ces hommes qui collectionnaient les estampes. Et d'ailleurs, il a eu un secrétaire japonais qui l'a initié. Donc ça aussi, c'est un livre très émouvant. Il faut le voir, parce qu'il y a des dessins à l'intérieur qu'on n'a pas pu tous illustrer au catalogue.
Alors évidemment, vous parlez, Camille de Foresta, avec passion de tous ces lots. J'avais une question, mais peut-être que du coup, vous n'allez pas pouvoir répondre, parce que c'est quoi votre coup de cœur?
Mon préféré, j'en ai plein, mais écoutez, peut-être que je pourrais vous parler. Il y a un objet que j'aime vraiment énormément, c'est une plaque en céramique émaillée qui a été faite par Clément Massier à Valoris, cette manufacture de céramique du Midi. Ce que j'aime, c'est d'abord qu'elle représente le mont Fuji avec des bambous au premier plan, donc extrêmement évocatrice, mais aussi parce qu'elle porte l'étiquette au dos de justement cette galerie de Bing dont je vous parlais, l'Art Nouveau. Donc là, c'est une vraie, un vrai lien, si vous voulez, entre ce qui s'est passé à la fin du 19e et nous aujourd'hui. Cette étiquette m'émeut énormément, ça faisait partie vraiment des noms que je voulais voir illustrés dans ce catalogue. J'aime aussi beaucoup les Henri Rivière, dont nous n'avons pas parlé. Henri Rivière est un peintre que vous connaissez et qui fait une série qu'il a appelée les 36 vues de la Tour Eiffel en écho aux 36 vues du Mont Fuji. C'est tellement... il y a un tel dialogue entre les deux séries qu'on ne peut pas ne pas être séduit. C'est très beau et pas très cher.
Alors, une très belle vente donc, qui aura lieu le 15 novembre. Un petit mot juste avant de se quitter, peut-être sur justement Christie's, qui est une maison de vente assez leader sur tout ce qui est art d'Asie. Vous êtes justement, Camille de Foresta, donc spécialisée dans ce département art d'Asie. Il y a eu des très belles ventes déjà assez récentes d'objets prestigieux qui ont atteint des records aux enchères. J'avais noté justement en décembre 2016, vous avez orchestré la meilleure vente d'art d'Asie jamais proposée aux enchères en France avec un record de 26 millions d'euros. Mmh. Donc ça, c'était vraiment assez extraordinaire.
Dans la moitié pour un objet.
Dans la moitié, un objet à 13 millions, je crois. Oui. Qui était... quel était cet objet d'ailleurs ?
Alors, c'était un objet absolument extraordinaire. C'était un bronze doré, un Bouddha Vairocana, qui est d'origine chinoise, bien sûr, mais l'époque Liao. Donc l'époque Liao, c'est extrêmement tôt, hein, 9e siècle, donc très, très impressionnant de voir la qualité de dorure et la qualité de ciselure sur un objet aussi ancien. Et un objet que nous connaissions pas cet exemplaire-là, mais en tout cas cette effigie est présente au Met à New York. Donc ça fait partie des objets qu'on a déjà vus, dont on a vu la reproduction dans les catalogues. Donc quand ça arrive, en général, on reconnaît assez vite. Et c'était un objet qui était accompagné d'une provenance tracée, acheté par un collectionneur hollandais dans les années 50. Et on avait encore la facture d'origine. Et voilà, 13 millions d'euros au marteau. C'était un très beau moment. Et puis un objet qui était empreint de beaucoup de symbolique et de charme. Non, c'était un formidable objet qui le méritait largement.
Et en 2017, également un vase en porcelaine, un vase dit au sang d'Ain, sans le chiffre, pour 4 millions d'euros également. Donc Christie's se porte bien au niveau des arts asiatiques.
Oui, ce vase, c'était un vase absolument formidable parce qu'en fait, en remontant nos recherches, nous sommes rendus compte que c'était vraiment le pendant, enfin nous pensons que c'était le pendant du vase Sandin du musée Guimet qui vient de la collection Ernest Grandidier. Donc une collection formée vers 1900, fin 19e, début 20e, et ensuite donnée au musée Guimet. Et c'était vraiment, d'un point de vue stylistique, de couleur, de forme, vraiment son pendant. Oui, les arts d'Asie, et en particulier chinois, se portent très bien, et chez Christie's se portent vraiment bien. Nous avons deux ventes par an, et nous, notre travail, c'est d'essayer de trouver pour nos acheteurs qui sont principalement asiatiques des objets qui dorment dans des collections françaises depuis plusieurs générations. Donc en général, des objets qui ont été rapportés par voie militaire ou diplomatique entre la fin du 19e et nos jours. Voilà.
Alors Camille Desfaresta, chasse au trésor. C'est voilà, la chasse au trésor, c'est votre spécialité, les arts d'Asie. Mais prochainement, allez, on l'a appris il y a pas très longtemps, vous allez quand même orchestrer une vente qui va faire parler d'elle forcément et qui fait déjà parler d'elle. Vous nous en parlez?
Bah oui, oui, je suis toute contente et une petite respiration dans notre métier des objets d'art. Nous aimons beaucoup la haute couture et nous sommes très, très, très heureux, très fiers que Mademoiselle Deneuve nous ait choisi pour vendre sa garde-robe haute couture uniquement Yves Saint Laurent, donc de la fin des années 60 à début des années 2000, on va dire.
Et alors, c'est prévu pour
C'est prévu pour le 24 janvier. 24 janvier, pendant la Fashion Week, à Paris, chez Christie's. Et on espère vous avoir nombreux. Mais d'abord, japonisme,
voilà.
S'il vous plaît.
Là, c'était juste pour un petit avant-goût, ouais. Disons, de janvier. Mais effectivement, on a parlé donc de japonisme aujourd'hui. La vente a lieu donc jeudi 15 novembre à 14h30 chez Christie's. C'est au 9 avenue Matignon à Paris. Et évidemment, pour se rincer l'œil et pour en apprendre plus aussi, si vous êtes curieux, acheteur ou amateur, eh bien, exposition des objets à partir du samedi 10 novembre de 14h à 18h, également lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 novembre, également de 10h à 18h et le jeudi, le jour de la vente, donc dès le matin à 10h et jusqu'à 14h, donc coup d'envoi de cette vente sur le japonisme que vous orchestrez, Camille de Foresta. Merci beaucoup d'être passée chez nous. Vous êtes donc commissaire-priseur et spécialiste des arts d'Asie chez Christie's. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je vous attends nombreux à l'exposition et faites-vous connaître, surtout comme auditeur d'Art District. Merci de m'avoir reçue, Julie. Merci mille fois.
Un grand merci et à la prochaine fois et très bonne suite de nos programmes sur Art District. C'était Art Interview avec Julie Chaise-Martin et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre culturelle.